Merci une fois de plus au comité pour le fait de venir d'exercer le ministère auprès de vous. On est toujours heureux, on est toujours bénis de monter. La route est belle, on n'est pas encore en plein hiver, les chemins sont beaux. Donc, c'est juste on appelle ça un petit ride, un petit trajet. Donc, on est content, on est heureux. Et aujourd'hui, depuis un mois, je vais être honnête avec vous, on a pris beaucoup de recul à certains niveaux dans nos propres vies. Et on a décidé de se garder en travers la présence de Dieu et de chercher vraiment qu'est-ce que Dieu veut à travers le corps de Christ, qu'est-ce que le Seigneur veut investir dans le Seigneur. Nous sommes dans les temps où ça ne va pas vraiment bien, vous le savez, vous vivez ces choses-là. Et en travers de tout cela, c'est sûr qu'on recherche, Seigneur, le bien de l'Église ou de se préparer aussi, je pense, à ce grand retour qui ne tardera pas. On est dans ces temps-là. Et depuis un mois, je me suis senti dirigé très fortement vers un message ou vers une ligne de pensée qui est venue très fort dans mon cœur, que j'ai été vraiment interpellé. Et ce matin, ça va être un message, on va se mettre tout à la même place, OK? Moi, le premier, parce que j'ai reçu en premier là, ce message, mais je sais une chose, que Dieu recherche des cœurs purs, des cœurs prêts au changement. Jésus revient, les cœurs de l'Église ou nos cœurs, en tant que chrétiens, il y a des choses qui doivent changer. Et le changement, je le dis, je vais le répéter ce matin, le plus dur dans une vie chrétienne, c'est le changement. Le changement, ça ne plaît pas à personne. J'ai rien entendu, alléluia. Ça ne plaît pas. Donc, on se fait déranger. Mais l'onction de Dieu, elle est dérangeante aussi. Quand Dieu touche ou qu'il veut nous amener plus loin, il veut déraciner des choses dans notre vie pour aller plus loin avec lui. Et le mot « déraciner », c'est fort parce que c'est enlever. C'est complètement enlever la mauvaise racine. Et ce matin, on va parler sur ça. Que Dieu veut déraciner les mauvaises racines dans nos vies. Si vous avez si vous avez vos Bibles, on va y aller sur PowerPoint. J'aimerais lire avec vous le texte de base où j'ai été vraiment interpellé, puis qu'on va regarder ça de près ce matin. Je crois honnêtement, qu'est-ce qui vient dans mon cœur, qu'est-ce qui est venu dans mon cœur, soit qu'on prend la parole comme un reproche, ou soit qu'on prend la parole comme une libération. Il y a deux façons de voir la parole de Dieu. Soit tu te sens jugé, ou l'ennemi vient juger, vient te condamner à travers un message, que je ne pense pas c'est l'onction de Dieu qui fait ça, mais la véritable onction de Dieu, elle vient pour déraciner et guérir. Et ça, c'est l'onction que l'Esprit de Dieu fait dans nos vies. Et ce matin, j'aimerais ça parler, Dieu voulant, de guérison, de restauration et de déraciner nos mauvaises racines. Alléluia! Si vous voulez, on va lire Jérémie, chapitre 1 et le verset 10, qui nous dit « Regarde, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Seigneur, merci pour ce temps, Seigneur, de fraternité, ce temps d'être ensemble. Seigneur, c'est ton Église, c'est ton œuvre, Seigneur. C'est toi qui bâtis l'œuvre à travers, Seigneur, avec ceux qui veulent avancer avec toi. Et Seigneur, ce matin, on veut juste être des instruments pour aller plus loin avec toi. Seigneur, viens parler à nos cœurs. Viens toucher la conscience, Seigneur, de nos cœurs ce matin, afin de nous faire réaliser à quel point que tu nous aimes, mais aussi à quel point que tu désires avoir des cœurs, Seigneur, qui sont consacrés pour toi. Donc, bénis la parole, Seigneur, bénis ton peuple. Donne-moi la facilité, Seigneur, de déverser qu'est-ce que tu as déposé, Seigneur, pour ce matin. Père, dans le nom de Jésus. Amen et amen. Donc, juste faire un peu d'histoire pour le texte. Donc, Dans ce texte, vous savez, Dieu a établi le prophète Jérémie sur le prophète des nations, sur le prophète des royaumes. C'est un appel vraiment mis à part pour le royaume de Dieu, pour le service de Dieu, de parler de la part du Seigneur. Et ici, dans notre texte, Dieu a mandaté le prophète Jérémie pour annoncer la destruction et la restauration du peuple d'Israël. Donc, Dieu veut arracher, il veut abattre, il veut pour ruiner, pour détruire, et après, pour bâtir et pour planter. Deux choses. Une pour détruire, l'autre mettre une nouvelle semence. C'était des bonnes nouvelles, là, OK? Fait que le peuple vit dans le péché, le peuple vit dans la désobéissance, le peuple vit dans la rébellion, vit dans l'idolâtrie. Donc, la loi de Dieu n'est plus dans le cœur des gens. La crainte de Dieu a disparu du peuple, et donc, c'est un peuple qui est rebelle, c'est un peuple qui doit être courbé, qui doit être redressé. Dieu veut redresser ce qui est tortueux. C'est le fond un peu du texte que je vous donne ce matin. Donc, Dieu va donner un message à Jérémie contenant les éléments au jugement et au rétablissement du peuple de Dieu. Donc, le message central du prophète Jérémie, c'est que la nation a été corrompue et elle devrait être abattue afin que Dieu puisse planter une nouvelle semence. Vous savez, Dieu veut des cœurs à lui. Dieu désire des cœurs consacrés à lui. Dieu veut des cœurs circoncis pour lui. Donc, Dieu veut reconstruire Israël, un peuple qui va aimer sa parole et qui va marcher dans l'obéissance de sa parole. Donc, Dieu désire que nos cœurs lui appartiennent au complet. Alléluia! Donc, la seule façon que l'humain comprend ou le cœur de l'homme peut comprendre, donc, c'est en travers les épreuves. Donc, si tu ne veux pas comprendre, on va passer une petite épreuve, hein, comme on dit. Puis, si tu n'as pas compris, on va t'en donner un autre. Jusqu'à temps que tu comprennes. Ça, c'est le plan de Dieu. Donc, la seule façon de comprendre de sa rébellion, c'est qu'ils vont aller en captivité. Et en 598, avant Jésus-Christ, le roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, va attaquer Jérusalem et il va emmener une partie avec lui, mais plus tard, quelques années plus tard. Donc, le peuple va retourner à Jérusalem. Donc, je suis en train de dire, dans le contexte, souvent, si nous voulons avancer avec le Seigneur ou si nous ne comprenons pas ce que Dieu veut nous faire, donc la souffrance fait partie d'un moyen de Dieu. Donc Dieu veut déraciner dans nos vies les mauvaises choses, les mauvaises semences, pour mettre en nous quelque chose qui va porter du fruit. Et c'est pourquoi qu'il est dit dans Jérémie 4, verset 3, « Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem, défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. » Écoutez bien, pour porter du fruit, il faut que le sol intérieur de notre vie, soit nos mauvaises semences, nos mauvaises racines, soit enlevé de nos vies. Sinon, ça ne porte pas de fruits. Et c'est pour ça qu'on voit souvent des gens, que vous ayez 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de vie chrétienne, ça ne porte pas le fruit. Il y a quelque chose, à quelque part, qui est mal planté. Et il faut que ça soit déraciné pour que tu comprennes qu'est-ce que Dieu veut faire dans ta vie. Allô? Donc, il faut voir la réalité que le plan de Dieu, il est amour. Mais l'amour de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu accepte tout. Allô? Donc, si ça ne porte pas le fruit, tu dois te déraciner, te défricher un champ nouveau et pas semer parmi les épines. C'est-à-dire que tu dois changer les choses à l'intérieur de ta vie parce que ça ne porte pas le fruit et ça ne change pas. Si ça ne change pas, c'est-à-dire change ta façon de faire. Alléluia! Donc, et c'est pourquoi que je suis appelé à semer dans une nouvelle terre. C'est pour cela que j'ai besoin de réaliser que j'ai besoin de changement intérieur. Le changement de nos vies, quand nous réalisons, se fait quand on réalise notre faillite spirituelle. C'est une grande vérité. Matthieu 5, verset 3. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Donc, les pauvres en esprit, c'est ceux qui reconnaissent leur impuissance et qui dépendent de toute la puissance de Dieu pour changer nos cœurs. Le pauvre en esprit reconnaît qu'il a besoin d'un secours dans sa vie. Il lui manque quelque chose dans sa vie. Quand nous réalisons notre pauvreté spirituelle et que tu n'avances plus dans ta vie spirituelle, tu dois dire, Seigneur, je suis pauvre dans ma vie spirituelle. Mon cœur, mon âme, mon esprit a besoin d'être changé. Alléluia. Le pauvre en esprit reconnaît sa pauvreté spirituelle. Alléluia. Tu demandes au Seigneur, viens m'aider, alléluia, afin que je devienne un homme ou une femme transformée. L'humilité doit prendre place dans notre vie. Jean, je ne l'ai pas donné, je vais juste vous citer Jean 3, 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Donc, pour croître, je dirais ceci, il faut que la semence qui tombe en terre porte un fruit. Et la terre, nous savons, une fois que la semence est mise en terre, elle a besoin d'être arrosée. S'il n'y a pas de pluie, ça va sécher. Une fois que la semence est mise en terre, une semence, soit de vigne, soit de pomme, peu importe la semence, ça prend de l'entretien. Donc, si l'arbre veut grandir ou ça veut prendre de l'expansion, donner ses fruits, donc ça demande de l'émondage. Ça demande d'enlever les branches mortes qui ne portent pas le fruit, qui empêchent l'arbre de grandir. Est-ce que c'est vrai? Les agriculteurs m'ont dit, c'est toute ça l'histoire. Et j'aime le récit de Jésus qui nous dit comment porter le fruit. Jean 15, 2. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est écrit? Ah, j'ai rien à voir. Qu'est-ce qu'il est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? Il le retranche. Ça ne porte pas de fruit. Donc, on le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, qu'est-ce qu'il fait? Il l'émonde afin qu'il en porte encore plus. Donc, il y a un enlèvement pour porter le fruit. Alléluia. Si la sève de la vie, de l'arbre, ou si la sève de l'esprit ne se rend pas dans nos vies, dans certains endroits de notre vie, ça doit être déraciné. On est-tu d'accord avec ça? Donc, le Seigneur désire faire le ménage. Tout ce travail intérieur dans notre vie se fait par l'œuvre de la croix de Golgotha. Alléluia! C'est que pour que l'œuvre de la croix, c'est pour refléter notre nouvelle naissance en Jésus-Christ. Alléluia! Corinthiens, 2 Corinthiens 5, 17, je vous le répète souvent, mais c'est un texte que j'aime beaucoup parce qu'on peut aller beaucoup avec ça. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, par ta nouvelle naissance, nous avons changé, non seulement de royaume, nous avons adhéré à une nouvelle vie. Donc, où l'œuvre de la croix est venue transformer et changer notre identité spirituelle. Donc, qui doit maintenant porter un fruit de sainteté, de sanctification, la vie de l'Esprit, le Saint-Esprit qui vit en nous. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Est-ce que c'est vrai? C'est ça la Bible nous enseigne. Donc, où la sainteté de Dieu vient habiter en nous, le Saint-Esprit vient changer ma vieille nature. Combien traînent encore leur vieille nature? Soyons honnêtes, là. On a tous des vieilles natures qui ont besoin d'être changées. En tout cas, moi, je me mets là mes deux mains, là. J'ai pas peur de m'identifier avec le changement. Donc, l'Esprit de Dieu, c'est pour me rendre conforme à l'image de Jésus-Christ et nous enseigner la révélation de Christ et de nous faire venir à la stature parfaite de Jésus-Christ. Quand nous disons que nous sommes le temple du Saint-Esprit, le mot « temple » que Paul prend, c'est un mot grec qui parle du naos. Le naos que Paul parle, il vient de l'Ancien Testament, le mot d'un Ancien Testament qui parlait du tabernacle de l'Ancien Testament, la tente. C'était le lieu saint. C'est là où que le service, sa serve de salle se faisait. C'est là où que Dieu visitait son peuple une fois par année dans le lieu très saint. Donc, le temple, c'est un lieu saint. Et c'est ça que nous sommes des saints. Des saints, la maison de Dieu doit être propre dans notre vie. Alléluia! Et on est des saints. Maintenant, ma nouvelle naissance, le rôle de l'Esprit de Dieu, c'est changer ma nature profonde et cette sainteté m'éloigne de la chair. L'apôtre Pierre, dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 4, j'ai pris la Bible seconde, le Louis II, 21, on va lire en même temps que je lis. Vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Vous pouvez. C'est un mot fort, là. Vous pouvez. Il n'a pas dit ton voisin peut, il dit tu peux. Tu peux changer si tu veux changer. Donc, tu peux arrêter la convoitise de la chair pour devenir participant à la nature divine. Donc, chacun de nous a le devoir de fuir et de devoir, également, de devoir s'éloigner du péché, de la corruption, du mal, les convoitises de la chair. Vous avez reçu, à travers le baptême dans le Saint-Esprit ou à travers votre nouvelle naissance, la force, l'autorité, le pouvoir de résister au mal. Alléluia. La Bible, elle est notre force. La parole est notre force. La puissance de la croix, c'est de nous rendre participants à la participation divine. Notre nature doit refléter la nature divine. Alléluia. Donc, c'est bon. Quand tu t'arrêtes, puis tu penses à ça, qui je suis comme chrétien? Donc, je dois refléter qui? La gloire de Dieu dans ma vie. Alléluia. Et nous pouvons y arriver par la puissante onction du Saint-Esprit. Pour cela, il faut que le vieil homme soit déraciné. Dis avec moi, il faut que mon vieil homme soit déraciné. Alléluia. Le nouvel homme doit prendre place. La nature divine, par ta nouvelle naissance, est de détester le péché, ses mauvais désirs, ses mauvais les convoitises charnelles, et haïr ce que Dieu n'aime pas et aimer qu'est-ce que Dieu aime. Quand tu aimes les choses de Dieu, tu commences à vivre dans la crainte de Dieu, le respect de Dieu. Parce que la semence que tu as eue, que tu as reçue, elle est sainte. Tu as une semence sainte. Le Saint-Esprit est en toi et elle va contre la désobéissance de la parole. Et cette semence, la puissance du Saint-Esprit, fait que tu cherches une vie de transformation. Allô? Combien cherchent une vie de transformation? On est bien dans notre petit confort. Dérange-moi pas. Tu sais, là, viens pas me plier sa grosse orteille. T'as pas d'affaire à me dire des choses comme ça. Tu sais, on a de misère. La chair, elle reste chair. Mais tu peux aller plus loin dans ta vie chrétienne. Je crois que l'onction de Dieu s'est amenée plus loin avec lui. Tu vis dans la puissance de la résurrection. Tu vis en nouveauté de vie. Alléluia. Donc, Luc 5, 37. Et personne ne met du vin nouveau dans les vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdus. Jésus a enseigné, à travers ta nouvelle vie, tu as reçu une outre nouvelle, une outre qui t'a rempli de vin nouveau, le Saint-Esprit. C'est sa grâce, c'est son amour, c'est sa compassion qui a réglé la dette du péché. Mais par ce fait également, Jésus dit, tu ne peux pas vivre avec des vieilles outres puis vivre avec des nouvelles outres. Ça ne se fait pas. Parce que le vin nouveau, quand il va fermenter, il va déchirer la vieille outre. Donc, il y a des choix à faire. Ça nous parle des prises de position qui doivent se refléter dans nos vies parce que le vin nouveau est supérieur au vieux vin. Notre homme, notre vieil homme, est enterré par le baptême d'eau. C'est ça qu'on fait quand on baptise les gens. Ton vieil homme reste dans l'eau. Donc, tu dois vivre dans la puissance de la résurrection pour être vainqueur de tes péchés. Un jour, un homme de Dieu a dit, il nous faut arrêter de rendre visite à notre tombe. C'est bon, hein? Arrête de regarder, t'es mort, là. Vis autrement, t'es mort. Arrête d'aller là, arrête de vivre avec ces choses-là. C'est-à-dire, ton vieil homme, il est mort, puis tu vis avec une nouvelle créature, avec une nouvelle naissance qui veut refléter la gloire de Dieu. La vie de l'esprit, la vie de la résurrection de l'esprit, c'est de vivre en nouveauté de vie. Donc, tu vis avec un nouveau départ. Et que tu sois, le rôle de l'esprit, c'est de nous instruire dans les paroles de Dieu, dans la justice de Dieu, dans l'amour de Dieu, c'est-à-dire de faire le bien et non le mal. Pourquoi quelqu'un de bagarre dans nos églises? Je parle pas juste ici, là. Moi, j'en ai fait pas mal, là. Puis ça se ressemble pas mal tout, honnêtement, là. Il y a toujours un peu de bagarre un peu partout, là. Pourquoi c'est comme ça? On n'a pas saisi vraiment cette grâce que le Seigneur nous fait. Et maintenant, je vais en parler un petit peu plus loin. La nouvelle naissance doit déraciner le vieil homme. Lisons Romains chapitre 6, 7, 8, 10. On va lire ces versets. Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que vous ne soyez plus, quoi, esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec Christ. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Vous aussi, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Donc, le pouvoir de la croix n'a pas simplement pardonné nos péchés, mais elle a changé ma nature profonde. Alors, c'est plus que dire que le Seigneur m'a pardonné, mais il est venu changer ma nature, mes comportements, mes attitudes. Il est venu pour changer ces choses-là. C'est pas de dire « je suis chrétien » puis je suis... Ça n'a rien à voir avec ça. La croix, c'est libérateur. La croix vient déraciner le péché. La croix vient pour rendre l'homme libre de ses mauvaises habitudes. Allô? Elle change la nature de l'homme. Vous savez, je ne suis plus esclave du péché. C'est été réglé à la croix. Regarde-toi comme mort au péché. La puissance de la résurrection est venue me rendre libre de tous mes mauvais comportements. C'est une éducation qu'on doit vivre dans le comportement du royaume de Dieu. Paul nous dit, c'est pour la liberté que j'ai été racheté. Et souvent, on revient souvent en arrière. C'est ça le problème. Jésus à la croix, par son œuvre à la croix, nous a libérés de cette vieille vie-là. Paul nous dit, autrefois, je vivais sous l'emprise du diable, je vivais dans les convoitises du monde. Et Éphésiens 2, chapitre 2, versets 4 et 5. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il vous a rendus à la vie avec Christ. Ça veut dire que je, tu, vous, devez vivre en nouveauté de vie et vivre dans la culture du royaume de Dieu. Ce nouveau royaume, donc, comme j'ai dit, vient déraciner la vieille vie, la vieille semence, et planter une nouvelle semence. Jean, chapitre 12, verset 24, avant de rentrer dans le vif du sujet, « en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Donc, notre nouvelle naissance, elle doit donner du fruit. Dis avec moi, ça doit donner du fruit. Ça doit donner. Dis-le, j'ai rien entendu. Ça doit donner du fruit. C'est la loi de la semence. Donc, la nouvelle vie doit donner le fruit et le fruit doit se multiplier. Quand tu vas vers un pommier, il n'y a pas juste une pomme, il y a plusieurs pommes. On s'entend, là, donc ça se multiplie. J'aimerais regarder avec vous, c'est à mon entrée, ça, là. J'aimerais parler avec vous ce matin sur un point important. Ce que je crois, pour ma vie, pour votre vie, on va se mettre dans la même galère avec ça, là, je l'ai dit. Là. La première chose que le Seigneur désire faire dans nos vies pour emporter le changement et de marcher, je dirais, dans une nouvelle nature divine, premièrement, c'est d'accepter le changement. D'accepter qu'on va changer. C'est un gros point, ça. C'est tout le point d'une église et c'est tous la même. Hein? Ou que de l'homme qui dise de l'hommerie. Est-ce que c'est vrai? C'est des réalités de la vie. Et dire que le rôle du Saint-Esprit, c'est le changement. Et dire au Saint-Esprit, de dire dans notre vie au Saint-Esprit, viens arracher, viens abattre ce qui me détruit et ce qui ne te glorifie pas. Depuis un mois, le Seigneur m'a dirigé avec cette lecture ce matin. Il m'a montré, il y a trois choses qui sont venues dans mon esprit. Et j'avais dit à Manon, la semaine avant, je ressens dans mon cœur, il faut que je me retire à bien des endroits. Il dit, Seigneur, j'ai besoin d'entendre, qu'est-ce que tu veux me dire? J'ai besoin d'avoir la tête libre. Je ne veux pas être influencé, je veux avoir la tête libre quand je vais venir prêcher. Il y a trois points importants que le Seigneur m'a montré, je n'aurai pas le temps de faire les trois points ce matin, c'est certain. Il y a trois cancers généralisés dans le corps de Jésus-Christ qui doivent être déracinés et enlevés. Nous avons besoin, j'ai pris une façon humoristique de vous dire, d'être opérés pour enlever des cancers pour retrouver notre vraie santé spirituelle. L'opération du Saint-Esprit. Alléluia. Et la première chose que je ne parlerai pas ce matin, je n'ai pas le temps, c'était avoir un langage beaucoup plus soigné. La langue elle a besoin de guérison. Deuxièmement, la désobéissance, soit le compromis que je vais parler ce soir au Life Reach Center. Dieu n'aime pas une église dans le compromis ou des gens qui vivent dans le compromis. Et le troisième point ce matin que je vais regarder, c'est l'orgueil. Vous allez dire, « Hey, pour qui se prend à prêcher pour l'orgueil? » Je me prends pas pour personne, je me prends comme un frère qui aime l'Église, qui veut avancer avec l'Église. Et l'orgueil, c'est un des plus grands cancers dans l'Église, qui fait dommage dans le corps de l'Église. C'est partout. Je vous le dis, c'est général, là, c'est partout. Là. Partout qu'on va, on voit toujours qu'il y a des têtes plus fortes. C'est partout. Maintenant, on peut vous en compter des choses. Je n'ai même pas besoin de dire, elle sait, elle entend comme moi. Et le mot orgueil, orgueilleuse, orgueilleuse au pluriel et orgueilleux vient 106 fois dans la parole de Dieu. 106 fois. Donc, ça veut dire c'est un sujet important à aborder. Allô? L'orgueil, c'est le contraire de l'exaltation de Dieu. L'orgueil, Romains 3, 23 nous dit, on est tous pécheurs et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Donc, quand Jésus-Christ est mort à la croix, il n'est pas mort juste pour nos péchés, soit pour nous pardonner, mais il est mort également pour que nous soyons restaurés à son image. Comprenez-vous? C'est plus que d'arracher. C'est de nous restaurer, c'est-à-dire de remettre à neuf le vieil homme pour qu'on resplendisse l'image de Christ, l'amour de Christ. Et pour y parvenir, donc le vieil homme, il faut qu'il laisse place au nouveau. Car nous avons été créés pour partager la gloire de Dieu et révéler également la gloire de Dieu. L'amour que nous avons reçu de Jésus-Christ vient pour déraciner le péché, soit l'orgueil. Il y aura, mes amis, mes frères, mes sœurs, ce matin, il y aura des combats, il y aura des luttes dans votre esprit où des démons veulent manipuler votre esprit. Nous savons où l'orgueil, premièrement, a commencé. L'orgueil a commencé premièrement par Satan lui-même, qu'on appelle Lucifer. Et cet homme-là, cet archange-là, au début, avait un comportement parfait, jusqu'au jour que l'orgueil lui vienne. Dans sa folie, il a voulu se faire égal à Dieu, supplanter Dieu, et Dieu va sévir avec cela. Et Satan a été nommé comme l'inspirateur de la rébellion, le chef des princes de ce monde des ténèbres, qui se déguise en ange de lumière, qui est un menteur, qui est un manipulateur. Et par sa chute, nous savons, à travers Adam et Ève, que la chute est arrivée et le péché est entré dans le monde. Donc, son but, c'est de détruire l'enfant de Dieu, l'œuvre de Dieu, la création de Dieu, parce que nous sommes la création de Dieu. Donc, son but, c'est de nous détruire. C'est la première chose, et c'est pour rien que le péché a fait rentrer la convoitise, toutes ces choses-là. Et par conséquent, le péché est entré, le cœur de l'homme est infecté, et l'orgueil, c'est un péché qui doit être déraciné dans nos vies. Dans le livre de Daniel, chapitre 4, on va regarder quelques exemples bibliques. Je ne veux pas m'appuyer sur moi, là, mais on va regarder ce que la Bible nous enseigne. Dans Daniel, chapitre 4, le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, va avoir un rêve, un songe qui va effrayer le roi. Et il a vu un ange qui a coupé un arbre énorme. Tout ce que cet arbre-là avait a été complètement détruit. Mais dans sa vision, il a vu également que juste la source de l'arbre n'avait pas été déracinée. Donc, le roi va convoquer les magiciens, les astrologues, les chadéens, les devins, mais personne ne peut interpréter le rêve. Donc, on va faire appel à Daniel, parce que Daniel a l'esprit des dieux saints en lui, vous lirez Daniel. Et Daniel, on va lire Daniel chapitre 4, verset 3 au verset 15. Le roi va commencer à révéler à Daniel les visions qu'il a eues. Il dit, voici, c'est le roi qui parle, voici un de ceux qui veillaient et qui sont saints ont descendu des cieux. Il cria avec force, il parla, abattez l'arbre, coupez ses branches, secouez le feuillard et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessus et les oiseaux du milieu des branches, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines. Donc, Daniel, je n'ai pas le temps d'en rentrer dans tout le texte. Daniel va donner la révélation du songe que le roi a eu. Daniel va révéler l'arbre qu'il a vu, qui a été coupé. Ça concerne le roi. Et ce rêve a été ordonné et donné par Dieu. Et dans cette vision, il est dit, « Laisse en terre le tronc et ses racines. Sa vie royale du roi va être brisée, elle va être secouée, sa domination va être sur une pause de 7 années. Dieu va révéler par prophétie le cœur de cet homme de les choses qui s'en viennent, le travail du prophète. Et Daniel 4, 25, il dit, « On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes, des champs, et on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passera devant toi. Sache, jusqu'à temps que tu saches, que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il domine à qui il lui plaît. » Wow! Donc, Daniel a la révélation qu'il va donner au roi. Il lui donne l'interprétation. Daniel va lui dire au roi, « Tu vas être chercher ton royaume. Tu vas vivre avec les animaux pendant 7 ans. La rosée du matin va venir et tu vas vivre comme les animaux. 7 ans! À manger de l'herbe. » Wow, hein? C'est quelque chose. Jusqu'à temps que tu saches que c'est le Très-Haut qui domine sous le règne des hommes et qui donne à qui plaît. Jusqu'à temps que tu saches qui domine. N'oubliez pas les mots, là. On pèse les mots, là. Écoutez bien, mais le tronc d'arbre qui est là, il dit, lui, il ne bougera pas. Ça va rester enraciné. Signifie, Daniel est en train de lui signifier que ton règne va prendre pause, mais il dit, ton royaume va rester là jusqu'à temps que tu reconnaisses que celui qui domine, qui est dans les cieux. Suite à cela, le roi Daniel va dire au roi, t'es aussi bien de t'humilier et de te repentir parce que ça ne va pas bien ton affaire. Daniel 4, verset 29 jusqu'au verset 33, on ne lira pas tout, après 12 mois, après la prophétie, les songes qu'il a eus, l'interprétation, ce roi dit au verset 30, « Le roi a pris la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. » Pendant qu'il se félicitait de tout ce qu'il a accompli, grâce à ses capacités extraordinaires, il est fier de lui, mais il ne remercie pas le Seigneur. Il donne aucunement honneur au Seigneur de toute la capacité qu'il a eue pour bâtir et la capacité de diriger le peuple. Et cet homme n'avait vraiment pas la crainte de Dieu, malgré les avertissements qu'il avait eus. Allô? Et Dieu souvent nous parle, puis on ne prend pas garde à ce que Dieu nous dit. On oublie vite. Et c'est pour ça, quand vous avez des prophéties où vous sentez le cœur de « écrivez », puis quand les chants arrivent, nous, c'est ça qu'on fait, quand les choses reviennent, qu'est-ce qui a été dit dans la prophétie? On revient, on réexamine qu'est-ce qui a été dit. On oublie trop souvent qu'est-ce que Dieu veut nous parler. Vous savez, cette tendance, des fois, est malheureuse. Le roi Nebuchadnezzar, tout est centré sur lui, sur sa gloire, sur sa personne, sur son ego, sur son orgueil. L'orgueil, ce matin, c'est un sentiment exagéré de sa propre personne. C'est un sentiment de fierté de son amour propre. C'est une estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. Moi, je l'ai l'affaire. Toi, tu ne l'as pas l'affaire. 1 Corinthiens 2, 10, 12. Ainsi donc que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Donc, ce roi n'a pas pris garde à ce que Dieu lui a donné. Il se croit en sécurité face au royaume. Et soudain, il y a une voix du ciel qui va venir. Et maintenant, cette voix-là qui reçoit la réalisation du songe, de la prophétie que donnait Daniel va se réaliser. Il va se retrouver dans les champs pendant 7 années. Ésaïe 2, 17. « L'homme orgueilleux sera humilié. » Et le hautain sera abaissé, l'Éternel seul sera élevé en ce jour-là. Ça parle-tu assez fort, ça? Le roi doit apprendre qui dirige la destinée de ce gars-là. La seule façon, je le dis un matin, avec humilité, je suis dans la même galère que vous, le Seigneur m'a vraiment parlé pour moi, pour ce message, et laissez-moi vous dire, il y a bien des choses, il faut que je change aussi dans ma vie. Et la seule façon pour arriver, c'est le brisement. Personne n'est intouchable. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, peu importe, personne n'est intouchable. Tu auras beau aimer le Seigneur, T'auras beau louer le Seigneur, t'auras beau adorer le Seigneur, t'auras beau servir le Seigneur, mais si tu es rempli d'orgueil, d'arrogance et d'être hautain, ça ne reflète pas et ça ne glorifie pas le comportement royal d'un enfant de Dieu. Et vous avez manqué une grande chance de me dire un gros amen. Ça ne glorifie pas le corps de Christ. C'est un des gros problèmes de vouloir se mettre au-dessus des autres puis dire, moi, je l'ai l'affaire, puis toi, tu ne l'as pas l'affaire. Attention, ça ne reflète pas l'amour et la grâce de Dieu. La Bible nous dit qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. Et c'est un cancer qui doit être déraciné. 1 Jean, puis je vais vous prouver par la Bible. 1 Jean 2, verset 16. 1 Jean 2 et 16. Moi, j'ai pris juste la dernière partie, là, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. C'est marqué, hein? L'orgueil de la vie ne vient point du Père. Donc, Dieu est amour et Dieu est non orgueilleux. L'orgueil, c'est quelque chose, quand on vit plus exagérément avec les autres, c'est-à-dire que la chair n'est pas encore morte et la chair n'a pas été encore crucifiée. C'est un gros amen. Alléluia. Prendre le temps de... L'orgueil également, c'est la notion d'une arrogance qui est provoquée par un comportement hautain, excessif et propre à sa personne. C'est d'être au-dessus des autres. Dans deuxième chronique, on parle de ce point-là. Dans deuxième chronique, ça nous parle d'un roi qui était extrêmement orgueilleux. Dans deuxième chronique, chapitre 26, verset 13 au verset 26, 23, il y a un roi qui s'appelle Ozias. Ozias, c'est un homme, c'est un roi qui est devenu puissant. Puis il va s'élever jusqu'à se perdre. Il est devenu orgueilleux. Ce roi va pécher contre l'Éternel. Ce roi va entrer dans le temple. Et il va commencer à faire brûler des parfums à l'autel des parfums. Et ce roi se croit tout permis. Le souverain sacrificateur Azaria et 24 sacrificateurs vont aller vers le roi. Et c'est des hommes courageux qui vont s'opposer au roi. Et il y a de la tension dans l'air. Les sacrificateurs disent au roi, c'est pas ta job, c'est pas toi de faire ces choses-là. Tu n'as pas le droit d'offrir des parfums. Ça ne t'appartient pas, ce n'est pas ton rôle. Ce droit appartient aux sacrificateurs qui sont dans la lignée d'Aaron, eux qui ont reçu le ministère. Il dit, sors du sanctuaire car tu commets un péché. Et il dit, en plus, ça ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel. Donc, les sacrificateurs l'avertissent sévèrement que tu ne peux pas faire ce rôle. Laissez-moi vous dire, je vais parler à cœur ouvert un matin, vous allez sûrement vous reconnaître. Il n'y a pas de place au contrôle dans une église, dans le sens que tout le monde fait ce qu'il veut. Donc, ce roi-là veut tout contrôler. Donc, les sacrificateurs disent, écoute, tu vas te planter, mon homme, c'est pas ta job, fais pas ça. Mais le roi, écoutez bien, on va regarder une parole forte. Veut rien entendre des sacrificateurs. 2 Corinthiens 26, 19. Combien? La colère s'empara d'Ozias qui tenait un encensoir à la main et comme qu'il s'irritait comme les sacrificateurs de la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel près de l'autel des parfums. Nous voyons l'homme orgueilleux. Il ne prend pas aucun conseil de personne. Il tient tête à tout le monde. Il démontre son manque de sagesse. Il est pris en flagrant délit avec l'ascenseur qui est en train de faire le service. Donc, il va déclencher toute une colère. Et il ne veut pas se faire reprendre. Parfois, c'est dur sur l'orgueil. Personne n'aime se faire reprendre. Hello! Soyons honnêtes, là. Donc, c'est le roi. Personne ne reprend un roi. Proverbe 12, 16. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère. La colère du roi, c'est un mécontentement. Il est violent, il n'est pas content, il y a un désaccord, il est agressif. La chair se manifeste. Quand nous sommes en désaccord sur certaines directions ou sur certaines choses, on voit la réaction des gens. Allô? Ça amène les petits coqs qui se lèvent, là. Je peux parler comme ça parce que je sais de quoi que je parle, là. On voit, là, tu penses que tu veux. Ouais. Vas-y. Défoule-toi, fais-toi du bien. Il veut exprimer ses besoins. Il veut exprimer ses déprimants. Il veut dire la vraie chose. C'est pas la bonne façon, mes amis. On va regarder d'autres choses aussi. Le roi Ozias est violent. Il est agressif. Ça passe pas. Il démontre qu'est-ce qu'il en est. Il est irrité. Oh, irrité! Ça fait 52 ans que je dirige. Tu ne dirais pas comment diriger mon royaume. On dirait qu'avec les années, on a tout vu, on a tout entendu, on a tout appris. On ne veut pas changer. On veut toujours avoir raison. Donc, on veut toujours garder ses points de vue. On ne peut rien apprendre de personne. On ne veut pas être dirigé par personne. On veut garder ses points de vue. Donc, on reste entêté. Allô? Ça, c'est de l'orgueil, ça. Allô? En tout cas, si ça ne vous parle pas, moi, ça me parle, en tout cas. Et j'ai pleuré amèrement. Quand je dis amèrement, j'ai pleuré à travers le message. J'ai dit, Seigneur, change mon cœur. On est des leaders, on est des prédicateurs, il faut donner l'exemple. Alléluia. Puis des fois, on n'est pas toujours des bons exemples. On ne peut pas être au-dessus des autres. Concentrer juste sur l'orgueil, sur soi-même, au point de tasser les autres et s'élever que les autres fassent le ministère à ta place, bien écoute, il y a des conséquences. Et Dieu voit la scène. Et Dieu va emporter un jugement à ça. Il est d'accord avec les sacrificateurs pendant sa crise de colère. La lèpre est venue sur lui. Et il a eu la lèpre et les 24 sacrificateurs, souverains sacrificateurs sont sortis. Écoutez bien, l'orgueil de ce roi, il va perdre sa royauté, son appel, sa vie à cause de la désobéissance, de son orgueil. Ce roi fut lépreux jusqu'à sa mort. Il fut exclu de la maison de Dieu après 52 ans de service. Ça, c'est fort, ça? C'est des textes très révélateurs pour une attitude de changement de cœur. Je vais aller plus loin. Personne n'est exempt de tomber. Philippiens 2, verset 3. Il dit, « Ne faites rien par un esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous-même. » Le mot aussi, là, ne faites rien par un esprit de vaine gloire, d'un esprit de parti ou de vaine gloire. La gloire, la vaine gloire, c'est une gloire vide. C'est une coquille vide qui caractérise l'orgueil ou le désir de se mettre en valeur au déprimant des autres pour se mettre en valeur pour ses propres ambitions. Le remède est ceci, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus. Qu'est-ce qui est écrit? Au-dessus des autres. On a-tu à apprendre, mes amis? On a-tu des choses ce matin qu'on doit dire, Seigneur, change mon cœur, change mon comportement, change mes habitudes, change quelque chose dans ma vie? L'humilité, c'est s'abaisser volontairement. Paul enseigne, n'ayez pas de moralité supérieure aux autres. La véritable humilité, c'est une mort à soi. C'est de porter la croix, de faire la volonté du Seigneur et de dire, je vais considérer les autres aussi. Pas juste moi, mais je vais considérer ce que les autres disent. C'est ça la vraie vérité dans l'Église. Je n'ai pas toute la vérité. Mais d'autres peuvent m'aider à aller plus loin. Je peux comprendre ce qu'ils veulent dire. Non, je ne suis pas juste... moi, j'ai raison sur tout, un pasteur, tu n'auras jamais raison sur moi. Arrêtez ça. C'est pas comme ça, la vie chrétienne. N'êtes pas les pasteurs plus hauts qu'ils sont. Ce sont des humains comme vous. On a nos défauts, on a nos faiblesses. Alléluia. On veut servir. C'est notre appel. Mais j'ai de la place au changement. Puis l'Église a de la place au changement. On se met tous dans le même bateau un matin. Allô? Tu ne pourrais pas dire que je suis orgueilleux quand je te dis ça, là. Demandons au Saint-Esprit de déraciner l'orgueil de nos vies. Luc, chapitre 18, verset 10 au verset 14. Il y a une parabole que Jésus nous donne, qu'il y a un pharisien, il y a un religieux, et un pharisien aussi, c'est un homme religieux, et un pharisien, il y a un publicain, un collecteur d'impôts qui n'est pas aimé. Et lisons un verset 11. Donc, je t'avais-tu donné la référence? Oui, Luc 10, 18. Luc 18, on va lire le verset 11. Le pharisien debout, priant ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste. » Je ne suis pas comme le reste des autres. Moi, je t'apporte des autres. Hein? Je pète les bretelles ici. Là. Qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même publicains. Je jeûne deux fois par semaine. Je donne ma dîme de tous mes revenus. Et l'autre à côté, le publicain dit, se tenant à distance, n'osa pas lever les yeux au ciel, mais se frappa la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans la maison justifié que plutôt que l'autre. Quiconque s'élève, sera abaissé, et celui qui s'abaissera, sera élevé. Donc, cette parabole, a pour but de nous garder des mépris des autres. La prière du pharisien voulait dire, je suis un homme bon, je garde ta loi, je jeûne, paye ma dîme, tout est beau, tout est bon. Mais il ne considère pas non plus le publicain. Ce pharisien se sert des autres comme norme pour déterminer ce qui est juste. C'est sérieux, là. Hey, c'est hot de dire des choses comme ça, là. Mais ce pharisien-là, c'est comme ça qu'il va la faire. Mais le publicain, lui, va dire, « Ah, oh, lui, il va mesurer la justice de Dieu. » Le publicain est conscient qu'il a besoin du Seigneur, qu'il s'est abaissé, qu'il s'est humilié, qu'il a remis sa vie entre les mains du Seigneur. Il est conscient que seul Dieu peut répondre à ses besoins. L'enseignement que Jésus nous donne, c'est que l'homme qu'il doit s'humilier devant Dieu. Quiconque s'élèvera sera abaissé et celui qui s'abaissera sera élevé. Prenons notre modèle sur Jésus-Christ qui a su s'abaisser pour venir servir l'homme. Philippiens 2, verset 6 et 7. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. Comparons-nous plutôt à Jésus-Christ et nous serons obligés d'être humbles. Il est venu comme un serviteur. Il est mort pour nos péchés. Il a été crucifié pour nos péchés. Il a mangé sur la terre ses bas de laine, que je pourrais dire. Mais il s'est abaissé pour nous sauver. Alléluia. Il a pris un corps d'homme et même il a lavé les pieds de ses disciples. Dieu lui-même a lavé les pieds de ses disciples. Ce serait bien nous, bien plus nous à laver les pieds de Dieu, là. Allô? Écoutez bien. Matthieu 23, 11 et 12. Le plus grand parmi vous sera quoi? Votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Nous sommes serviteurs de Jésus-Christ. Est-ce que c'est vrai? Paul nous parle d'être au service. Lisez avec moi à titre. On va regarder quelque chose encore plus loin. Titre 1. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. Je vais arrêter cela. Et Paul prend le mot serviteur. Et le mot serviteur, dans le mot grec, ça veut dire doulos. Doulos, c'est un esclave, un homme de condition qui est soumis à son propriétaire. Nous sommes la possession de Jésus, n'est-ce pas? Nous sommes les esclaves de Jésus. Au temps de Jésus, un esclave n'avait aucun droit à dire. Son maître l'avait acheté. Il devait exécuter, c'est ce que le maître lui disait. Nous aussi, nous avons été rachetés par Jésus. Il le fait par le prix de son sang et c'est à nous à nous soumettre à sa direction. C'est pourquoi que nous devons accomplir ce que le Seigneur nous demande. Nous sommes les esclaves de Christ. Proverbe 18-12, l'humilité procède de la gloire. Les plus grandes difficultés que nous rencontrons dans le corps du Seigneur, c'est la résistance au changement. Galates 16, 8, celui qui sème pour la chair moissonne la chair, la corruption. Et le roi, pour avancer rapidement, le roi Nebuchadnezzar, après 7 années de demande, Dieu va lui redonner possession de ses moyens. Et la première parole du roi, une fois qu'il était sorti du champ, lisons ensemble, vous allez voir qu'est-ce que ça fait un changement. Daniel 4, verset 34 et le verset 37. « Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel et la raison me revient. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. » Et le verset 37, lisez bien. « Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exhorte, je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et sont justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent en orgueil. » Wow! L'épreuve change une vie. L'épreuve enlève et déracine la vieille nature. L'orgueil qui prend trop place, c'est dans les racines intérieures de l'âme que la lumière du Saint-Esprit veut venir pour déraciner, afin de planter une nouvelle semence. Le brisement, je vous le dis ce matin, c'est libérateur. Un vrai brisement dans la vie d'un chrétien, c'est libérateur. Il n'y a pas rien de mieux qu'être libéré de ses vieux péchés, de ses vices, de ses convoitises et de vivre dans la sainteté de Dieu. C'est libérateur. Ça ne devient pas jugement, mais ça devient libérateur. Il faut réaliser la grâce de Dieu que le Seigneur veut enlever ces choses de nos vies. Alléluia! Laissez-moi vous dire, et ça va se faire par la prière, ça va se faire par la parole de Dieu, par une parole de révélation. Le but de l'Esprit, c'est de nous apprendre l'humilité, l'inverse de l'orgueil. On ne peut pas être plus grand que le maître. Proverbe 18, 12, je vais terminer dans quelques minutes. « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité procède la gloire. » Avant la ruine, ce roi a été hautain, il était orgueilleux, il était un roi qui faisait son histoire, mais là, il va porter des fruits dignes de repentance. Le fruit qui est digne de repentance, c'est quelqu'un qui a reconnu qu'il y a des choses à changer, qui a changé de voie, qui a pris une autre direction pour marcher sur la voie du Seigneur. Quand Jésus nous dit de porter des fruits dignes de repentance, c'est qu'on voit des changements dans la vie des gens, qu'on reconnaît les comportements ont changé, on reconnaît les attitudes de caractère qui ont changé, c'est le changement. Combien ils ont brandi un gros amen, là? Quand tu te braques toujours avec quelqu'un qui n'a jamais de changement, pose-toi la question, là. Qu'est-ce qui ne va pas, mon frère? Qu'est-ce qui ne va pas, ma sœur? Pourquoi ça n'a pas changé dans ta vie? Non, mais je vous pose la question. C'est vous qui allez y répondre, là. Tu ne peux pas toujours résister à tout le monde et faire toujours ce que tu veux. Ça ne se fait pas, ces choses-là. Il faut que ça change. Dis avec moi, il faut que ça change. Il faut que ça change. Je vais aller encore plus loin. Je termine. Le brisement fait sortir du fruit spirituel, je leur ai dit, c'est libérateur. Tu vas donner la louange, tu vas donner la gloire à Dieu. L'arbre qui est coupé, qu'on a vu au début, la source est encore en terre. Dieu le Père a voulu démontrer sa compassion, son amour, sa grâce. Dieu a pris le temps nécessaire de parler à ce roi qui avait besoin d'être mis à sa place. Dieu ne l'a pas rejeté, mais il lui a donné toute une leçon d'humilité. Quand la racine du mal est enlevée, cela veut dire que c'est là que vous allez commencer à porter du fruit. C'est un gros message, là. C'est quelque chose qui doit être déraciné dans nos cœurs. L'Église va avancer dans l'unité et dans la force. L'Église, je crois de tout cœur, le Seigneur m'a vraiment parlé avec ces choses-là. Quand je vous ai parlé la dernière fois que l'Église doit être unie, là, l'Église unie, on ne se combat pas les uns les autres. On avance dans la même direction. Même si ça ne fait pas ton affaire, là, écrase. Puis écoute ce que les autres ont à dire aussi. C'est tout clair, ça? Pas plus clair que ça, là. Vous l'avez dit, t'es tombé, c'est... Non, parce qu'on voit les choses, on a besoin d'un cœur de compassion, des cœurs d'amour, c'est facile de travailler avec des frères, on n'est pas obligé d'être toujours en accord, c'est correct, on n'est pas des clones, Mais il faut respecter les autres aussi, même si ça ne fait pas ton affaire. Amen. Donc, déracinons ça ce matin. Vous allez voir, on va gagner des. On va percer à des places qu'on n'est pas capable de percer. C'est prophétique, je suis en train de vous dire, là. Moi, je crois qu'on a besoin de ça. C'est ici ou ailleurs, on a tous besoin de ça. Moi, j'aimerais ça qu'on se lève un matin. Que vous soyez assez humble de dire, Seigneur, change mon cœur. Combien sont prêts à dire, Seigneur, change mon cœur. Moi, je veux voir les choses avancer. Fatigué de me battre dans des vieilles outres. Vivre dans des outres nouvelles. Alléluia. Dans la joie, dans la paix, dans l'avancement. Ça peut dire qu'il n'y aura pas de combat. Il va y avoir des combats, c'est correct. C'est normal, c'est la vie chrétienne. Mais quand on marche ensemble, il y a pas mal plus de fruits que marcher tout seul. Là. Puis tu ne peux pas retenir toujours un troupeau parce que toi, tu ne veux pas non plus. Je me souviens, je termine avec ça, notre premier pastoral. Je m'en souviendrai toujours. Ça fait quand même plusieurs années qu'on est au service. Et les gens, souvent, se plaisent à dire des mauvaises choses sur les bergers ou sur les gens de l'Église. On ne réalise pas toujours nos portées. Hein? En tout cas, moi, je me mets dedans. Hein? Et donc, il faut apprendre à dire, Seigneur, je ne suis pas correct, j'ai besoin de changement, veux-tu m'aider? Combien sont prêts à être honnêtes un matin? Seigneur, veux-tu m'aider? Veux-tu m'aider à changer? Viens casser ce fichu caractère-là. Viens, Seigneur, enlever ça de ma vie. Moi, c'était. Puis un matin, je chantais, honnêtement, je disais à Manon, je chantais de l'opposition pour le message. J'ai combattu un bon bout un matin en prière avant de déverser. J'entends une opposition très forte. Mais je dis, tu ne m'auras pas ennemi. Je ne reculerai pas. Je pense que ça doit nous faire du bien des genres de messages comme ça. Je ne suis pas là pour vous juger. Je ne suis pas là pour vous condamner. Je n'ai rien à voir avec ça. C'est une question de cœur un matin. C'est votre cœur. Comment va votre cœur? Quand tu vas voir le docteur te parle. Tu dis, comment il va ton cœur? Ben, il est malade, mon cœur. C'est pour ça que je vous vois, docteur. On a un docteur qui veut guérir, alléluia. Il y a un docteur qui veut vous libérer de ça, qui veut opérer un matin des délivrances, des guérisons. Combien ont besoin de cela? On va se lever ensemble un matin. On va se lever ensemble, puis on va faire cette prière. Je voudrais, peut-être, frère Alain, si tu pourrais mettre une musique douce, de juste de prendre le temps de sonder notre cœur, de dire, Seigneur, ça m'a parlé, ça m'a fait du bien. Je réalise, je ne suis peut-être pas sur une bonne voie présentement et que j'ai besoin d'un changement intérieur. Ce serait bon. J'aimerais ça entendre. Je ne veux pas faire un appel parce qu'on peut tous avancer avec ça. Là. On peut se dire qu'on est toute une gang d'orgueilleux là, quelque part. Là. On peut tous se nommer dans ça. Là. Mais on peut prier. J'aimerais ça entendre des prières. Pendant qu'il va y avoir une petite musique douce, calme, d'élever vos voix. Seigneur, viens à l'Église. Viens changer nos cœurs. Viens changer notre attitude. Viens, Saint-Esprit. Viens faire du ménage chez nous. Viens, sont d'accord avec ça. Élevez votre cœur un matin devant le Seigneur. Moi, j'ai besoin, en tout cas, de cela. Je disais à Manon, quand on montait, je dis, mon plus grand désir, c'est de ressembler à Jésus. Mais Mike, j'ai du travail à faire. Que j'ai du travail à faire dans ma vie. Si j'en ai, vous n'avez de besoin aussi. Amen. Pendant qu'on va faire ça, moi, je vais prier, puis après ça, enchaîner. Seigneur, on vient devant toi ce matin. Tu vois le message. Seigneur, tu vois, c'était délivré, c'était dit, c'était donné. Père, je te prie pour l'Église ce matin d'Edmundston. Seigneur, tu vois, Seigneur, avec les années, tu as vu, Seigneur, les tempêtes, les ravages, Seigneur, qui s'est fait. Mais Père, nous voulons voir cette Église être reconstruite, Seigneur, à ton image. Une Église, Seigneur, qui va reprendre sa vigueur. Une Église qu'on va voir des nouveaux rentrés, des gens nouveaux, des nouvelles familles. Seigneur, des jeunes. Seigneur, change l'attitude de nos cœurs. Seigneur, afin qu'on puisse marcher de main dans la main. Seigneur, afin d'aller plus loin avec toi. Emmène-nous, Seigneur, être des serviteurs. Et Seigneur, on ne veut pas être plus haut, on ne veut pas être plus fin que l'autre, mais on veut juste être des gens qui vont marcher avec humilité pour voir ta gloire avancer. Père, ce matin, tout esprit d'orgueil, nous brisons cela. Nous brisons, Seigneur, qu'est-ce que l'ennemi met dans le cœur. Nous prenons l'autorité dans le nom de Jésus, où que la croix est venue anéantir l'ennemi, où que la croix est venue mettre la profondeur de l'amour et de la grâce dans nos vies. Seigneur, viens ce matin enlever le venin de nos vies. Viens purifier ta maison. Seigneur, nous avons besoin de réaliser que nous voulons marcher sur tes pas, marcher sur tes traces, accomplir la mission que tu nous as donnée. Mais Seigneur, on veut le faire ensemble, dans l'unité. Seigneur, il n'y a pas de plus grand ministère d'être au service des autres. Seigneur, bénis ton peuple. Emmène-les plus loin. Fais-nous du bien. Encourage-nous. Et nous relève-nous.